Depuis 1994, c'est-à-dire le génocide des Tutsis du Rwanda, Marc Lepape et moi-même, nous avons régulièrement travaillé avec des humanitaires, donc particulièrement de Médecins sans frontières, des défenseurs des droits de l'homme, des droits humains, des journalistes. Et nous avons continué sur le Rwanda, mais pas seulement sur le Rwanda, et ce, durant plus de 20 ans, donc. C'est pourquoi nous avons, au moment du 25e anniversaire du génocide des Tutsis, nous avons décidé de faire à plusieurs un ouvrage, pas seulement sur le Rwanda, mais aussi sur des violences extrêmes actuelles dans le monde. Eh bien, notre collaboration a commencé sur le Rwanda. En même temps, vous savez qu'il y a une littérature très abondante sur le Rwanda en plus de 20 ans. Nous avons pensé que c'était vraiment le moment de faire un bilan. Et c'est toute une première partie de cet ouvrage. Ensuite, la Syrie, ce sont des violences actuelles, contemporaines, de même que le Congo. Et nous travaillons aussi avec des gens qui sont sur ces zones de risque. Le Rwanda, comme le Congo, la République démocratique du Congo, comme la Syrie, sont en fait des terrains difficiles, qui sont dangereux, qui sont d'accès compliqué, et parfois même si l'on vient après les désastres, les infrastructures sont détruites et les populations sont totalement déprimées. Si bien que ce sont des terrains qui demandent de la part des chercheurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient secouristes, qu'ils soient droits de l'homme, qu'ils soient comme nous, universitaires, ça demande de s'adapter dans la recherche des sources. Par exemple, pour la Syrie, c'est la veille Internet est fondamentale. La veille Internet et les réseaux sociaux. Même si on recherche d'autres sources, ce sont d'abord celles-là qui sont nécessaires aux investigations. Pour le Rwanda, pour travailler quelques années après la catastrophe, beaucoup ont utilisé l'ethnographie de terrain, la recherche ethnographique classique, où tout se fait avec des témoins, avec des gens qui étaient sur place et qui en ont réchappé ou qui en sont témoins, pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'autres sources. Il y a aussi naturellement toutes les sources internationales, d'instances internationales qui sont impliquées dans les événements, comme l'OMS, comme HCR, etc. Donc ces jeux de sources sont très très importants pour comprendre un peu comment les différents chercheurs et praticiens organisent leurs données pour savoir quoi faire ou connaître. Bon, on sait que les situations de violence extrême créent des controverses très dures. Des controverses cognitives, mais aussi des controverses d'interprétation entre les secouristes, par exemple, ou bien entre les tribunaux et aussi des observateurs des droits de l'homme. Or, ces controverses font vraiment partie de l'observation elle-même. Il faut sans arrêt y prendre garde. Elles ont été très dures dans le cas du Rwanda, et c'est toujours le cas 25 ans après. C'est pourquoi dans ce livre, sur les 6 articles qui concernent le Rwanda, les auteurs ont tous pris la décision de mettre l'observation méthodologique et épistémologique en premier. Donc faire des bilans d'ordre méthodologique et épistémologique. Mais ce souci également est présent pour des controverses plus récentes concernant la Syrie particulièrement. Pour finir, le livre peut paraître disparate, puisque les terrains sont différents, les temporalités sont différentes, mais il y a une unité tout au long de ce livre. C'est que tous les chapitres relatent une enquête, relatent les procédés de l'enquête et l'enquête elle-même. Il y a un récit d'enquête qui est présent dans tous les chapitres. Et c'est, je crois, ce qui fonde l'unité de ce livre. Par exemple, pour les chapitres qui concernent l'Est du Congo, il y a 3 chapitres. Il y en a un qui relate le parcours d'un chef de guerre. et il est fondé sur des sources judiciaires. Or, c'était très important puisque on sait que le Kivu comme l'Ituri, enfin comme l'Est du Congo, est complètement déchiré par toutes ces guerres intestines menées par des chefs de guerre, eux-mêmes soutenus par des puissances étrangères et limitrophes du Congo. Il y a aussi un article d'une journaliste qui a beaucoup travaillé sur ces chefs de guerre et qui raconte et qui dit comment elle est liée à MSF, qui est sur place également dans ce terrain. Donc, les deux communiquent et échangent naturellement leurs données. Et elle dit que c'est même un problème dans la mesure des influences réciproques qu'ils peuvent se porter. Il y a aussi un troisième article qui est d'une chercheuse et qui se demande comment MSF fait ses propres enquêtes, instruit ses propres enquêtes avant d'agir. Et vous voyez, là, on voit que trois personnalités d'origine différente sont liées dans une même problématique, mais n'ont pas les mêmes méthodes et ne pratiquent pas le même genre d'enquête.
Notre livre réunit des auteurs professionnellement différents. Il y a des chercheurs universitaires, ce sont eux qui sont les plus nombreux dans le livre, mais il y a aussi des acteurs ayant eu une action humanitaire dans des pays difficiles et une journaliste qui, elle aussi, a travaillé dans des situations difficiles à l'est du Congo, dans des situations très difficiles d'accès et dangereuses. Ces auteurs, nous les avons réunis parce que nous travaillons avec la plupart depuis des années. Nous avons réfléchi ensemble sur des situations de violence, en particulier le Rwanda, puisque le génocide a été vraiment un événement très bouleversant. Mais nous avons aussi continué sur d'autres situations, en particulier sur le Congo. En particulier sur le Congo, parce que les situations de l'est du Congo sont très liées aux événements des deux principaux pays voisins, l'Ouganda et le Rwanda. Ce qui s'est passé au Rwanda a eu des effets importants et graves au Congo. Ce qui nous a conduit à introduire le sujet du Congo dans le livre. Pour la Syrie, c'est principalement la coopération avec Médecins Sans Frontières qui a joué. Médecins Sans Frontières a eu une activité médicale importante dans les zones qui ne sont pas sous contrôle gouvernemental en Syrie. Des zones régulièrement bombardées, principalement par les Russes, mais aussi par l'armée du gouvernement syrien. Et cette situation de bombardement des centres de santé est analysée de façon détaillée par les quatre auteurs d'articles dans ce livre. D'abord, deux médecins syriens eux-mêmes, qui travaillaient au début de la révolte et qui, au fur et à mesure où la révolte avançait, ont cependant été obligés de quitter la Syrie, étant eux-mêmes trop en danger. Un autre participant, un autre rédacteur, est un acteur humanitaire MSF qui est longtemps intervenu à l'intérieur des zones libres, comme on dit. Donc qui a discuté avec les combattants, qui a discuté avec les populations civiles et qui rend compte de cette longue enquête et de ses difficultés. Un troisième article sur la Syrie porte principalement sur les bombardements de centres de santé. L'enquête sur les bombardements de centres de santé est difficile. Elle est forcément faite à distance des centres de santé. Elle est faite à partir de la Turquie, grâce à l'établissement de réseaux de communication permanents entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui se trouvent à la frontière en Turquie. Et là, il s'agit d'enquêtes à la fois qualitatives et quantitatives. Quantitatives parce qu'effectivement, savoir dire quelle est l'intensité des bombardements de lieux de santé est important, quelles sont leurs conséquences. L'enquête est aussi qualitative. En effet, il s'agit d'écouter et d'entendre ce que disent les personnes sur place dans les lieux bombardés. C'est important de les entendre, de les enregistrer, car souvent, les organisations internationales, les Nations Unies en particulier, considèrent que ces témoignages sont émotifs et ne sont donc pas valables du point de vue politiques et juridiques, d'où l'importance de les recueillir et de les transmettre, quels qu'ils soient. Je vais parler du Congo, de l'est du Congo, la région qu'on appelle le Kivu, qui est frontalière avec le Rwanda. L'une des auteurs ou des autrices du livre a travaillé pendant un an sur l'action humanitaire dans cette zone. Elle a effectivement collecté beaucoup de données et d'informations sur le travail humanitaire en lui-même, sur ses difficultés, mais je voudrais insister sur une difficulté particulière. Ce travail, ce sont d'une part des équipes venant de l'étranger, d'Europe, des États-Unis, et d'autre part des Congolais eux-mêmes, qui sont embauchés sur place et qui jouent un rôle essentiel dans l'enquête. Ce sont des sortes de médiateurs entre les étrangers et la population locale. Or, être médiateur, c'est une situation difficile. Parce que d'un côté, ce sont des gens qui vivent sur place, qui ont une famille sur place, qui ont souvent eux aussi des liens avec les chefs de guerre et avec les combattants sur place, qui sont insérés dans des églises. Les églises sont très importantes là-bas. Donc, ils ont des intérêts, des engagements sur place. Mais d'un autre côté, l'organisation médicale leur pose des contraintes de fiabilité, de non-parti pris. Vous voyez donc la difficulté pour ces personnes d'être à la fois insérées dans un tissu social local, tissu politique, tissu militaire, tissu religieux, et en même temps de suivre, de respecter les contraintes que leur fixe l'organisation humanitaire. Pour l'organisation humanitaire ne fixe pas ça de façon arbitraire. En fait, elle a besoin d'informations, d'abord pour savoir où elle met les pieds, pour savoir où sont les risques, où sont les dangers, et pour se protéger par rapport à ces risques. Effectivement, là, il y a un véritable dilemme pour les étrangers qui sont là. C'est le problème de la confiance. En fait, c'est extrêmement difficile à trancher, c'est quasiment impossible à trancher. L'important est de savoir si l'incertitude est réellement réduite. Et ça, on ne le sait jamais immédiatement, comme on ne sait jamais immédiatement si une des personnes travaillant pour l'association n'est pas en même temps un informateur d'une bande armée. En fait, on ne le découvre que par hasard, si effectivement il y a une sorte de trahison, entre guillemets. Mais ça n'arrive pas régulièrement, ça n'arrive pas fréquemment, parce que, aussi, d'une part, l'activité médicale est considérée comme importante généralement dans la population. Donc, trahir l'organisation médicale, c'est quand même trahir aussi la population. Donc, parler de trahison, c'est peut-être un peu fort, parce qu'il y a une trahison légère, un peu permanente, mais qui n'a pas d'effet. Et des trahisons plus graves, quand elles arrivent, elles sont vite découvertes en général. Claudine a beaucoup évoqué le Rwanda. Elle a parlé des controverses cognitives qui étaient liées aux crises extrêmes telles que le Rwanda. Mais ces tensions cognitives existent aussi dans le cas de la Syrie et dans le cas du Congo. Je voudrais insister aussi sur les difficultés des enquêtes conduites au Congo et en Syrie. Ces enquêtes, les chercheurs et les humanitaires qui y travaillent s'imposent des méthodes qu'elles communiquent dans le livre. Il ne s'agit pas de faire de la méthodologie pour faire chic et avoir l'air savant. Il s'agit de faire de la méthodologie et de montrer qu'on est soucieux de méthodologie pour se parer aux attaques qui apparaissent généralement dans les débats politiques, intellectuels, et de chercheurs en Europe. Et à cet égard, pouvoir se défendre, pouvoir argumenter sur les méthodes de terrain que l'on a employées est absolument essentiel.